Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est le frère Jean-François Bourg, directeur du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la fête de Noël. Nous allons parler de la signification de cette fête tout à l'heure, mais aussi du travail que vous menez au sein du Service national pour les relations avec les musulmans. Vous êtes dominicain, spécialiste en islamologie, en dialogue interreligieux et en anthropologie sociale. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours spirituel et pourquoi cet intérêt pour l'islam et le dialogue interreligieux?
Moi, je dirais d'abord que mon intérêt, c'est celui de ma congrégation, en fait, de l'ordre dominicain, pour commencer, parce que c'est l'ordre dominicain qui depuis des années déjà, investit dans cette connaissance du monde arabe et du monde musulman. Et à vrai dire, depuis que je suis dominicain, donc à peu près en 1991, je me suis aussi laissé, séduire par cet investissement des dominicains en direction du monde arabo-musulman. Et j'en étais très heureux. Peut-être que j'étais disponible parce que j'ai toujours été habité comme chrétien par l'audace très universelle de l'évangile. Je résumerai ça en fait d'une phrase. Toute personne dans ce monde est un frère, une sœur pour qui le Christ a donné sa vie. Et puis on pourrait même dire que toute personne est bénie de Dieu qui agit partout et en tous. Et j'avais très envie, après ma coopération en Égypte, au Caire, d'approfondir ça.
Alors vous avez succédé au père Vincent Feroldi à la tête du service national pour les relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Église catholique a créé cette instance? Est-ce que vous pouvez peut-être nous retracer l'historique de ce service national qui s'appelait auparavant Service des relations avec l'islam?
Oui, c'est un service qui va fêter 50 ans d'ailleurs en 2023. Nous avons déjà posé une date pour cet anniversaire, le 30 novembre 2023. C'est intéressant de remarquer que l'Église de France est en Europe l'une des premières à avoir fondé un service spécialisé pour le dialogue avec les musulmans. Mais bien sûr, il y a des raisons historiques assez évidentes à ça, puisqu'il y a, une expérience de la France, au fond, surtout au Maghreb. Donc il y avait énormément de raisons pour l'Église de France de s'intéresser de près aux musulmans. Et puis comme vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, des travailleurs immigrés nombreux sont arrivés en France pour aider le pays à la reconstruction. Et c'était d'ailleurs souvent des gens assez humbles qui ont eu premièrement besoin d'une aide assez concrète au fond. Et pour les soins, pour leur logement, parce que bon, certains étaient même en bidonville. Et les catholiques de France, en fait, ont ressenti le besoin de mieux comprendre ce qui faisait vivre ces travailleurs immigrés dans un premier temps, tout en les assistant souvent aussi très matériellement, y compris en prêtant des salles. Et puis, petit à petit, avec le regroupement familial et le développement d'une vraie population musulmane française, avec ensuite des générations de musulmans nés en France, l'Église catholique, à travers ce service, donc le SRI d'abord, puis devenu le SNRM, a voulu continuer à approfondir un dialogue spirituel aussi avec ces personnes et essayer de comprendre aussi un peu mieux comment, à travers le dialogue, on peut construire une société plurielle.
Alors ce dialogue justement entre les religions, pourquoi est-il important pour l'Église catholique d'aujourd'hui?
C'est-à-dire qu'on est, tous devant ce constat très, très intéressant et aussi peut-être même un peu redoutable, ce constat que nous sommes une humanité diverse. Et dans cette humanité diverse, où éventuellement il est difficile de se comprendre parce qu'on a des cultures différentes, on a des histoires différentes, on a des religions différentes, l'enjeu c'est tout de même d'arriver à bâtir l'avenir de l'humanité ensemble, non pas malgré nos différences, mais sans doute aussi grâce à nos différences. Et pour l'Église qui s'est toujours intéressée hein, au reste de l'humanité, notamment à travers les missions, l'élan missionnaire, dans un premier temps, pendant des siècles, il était surtout nécessaire aux yeux de l'Église d'incorporer tous les peuples dans le giron du christianisme. L'Église a quand même, après le Concile Vatican II, considéré qu'il faut bien sûr continuer la mission, mais il faut rééquilibrer d'une certaine façon la relation avec les autres peuples et les autres populations non chrétiennes en respectant à la fois leur liberté, parce qu'il n'y a pas de vraie évangélisation sans la liberté, en osant croire que le dialogue permet de construire un monde en commun, de découvrir même le bien commun ensemble, sans forcément qu'il y ait toujours conversion des uns et des autres. Et puis, l'Église a considéré aussi avec plus d'attention comment l'Esprit-Saint travaille vraiment dans tous les cœurs et a déposé des germes de la vérité partout. Voilà, donc il y avait beaucoup d'enjeux au milieu du XXe siècle et aujourd'hui, un certain nombre de services de dialogue interreligieux, il y a même un dicaster, hein, depuis le mois de mars 2022, il y a un dicaster pour le dialogue interreligieux à Rome, au Vatican, donc un ministère, un véritable ministère du dialogue interreligieux. C'est pour l'Église une façon de structurer cette relation, de dialoguer avec tous les hommes. Voilà, et de trouver, comme disait Paul VI, bien les chemins qui permettent de libérer l'humanité de toutes sortes d'aliénations, mais de le faire ensemble, en dialoguant, sans être toujours d'accord, mais en tous les cas en cherchant ensemble la vérité.
Jean-François Bourg, qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui, puisque la représentativité des musulmans de France est toujours en question?
Oui, alors les interlocuteurs, bien, ils sont de toutes sortes de catégories. Il y a des interlocuteurs qui sont des musulmans d'abord de la base. C'est le cas même pour moi au niveau national, puisque je travaille aussi moi parce que je vis à Strasbourg par exemple, donc je travaille aussi sur le terrain. Il y a donc des responsables associatifs qui sont locaux et qui sont en relation avec tout le réseau du SNRM, lequel réseau est constitué des délégués diocésains pour le dialogue avec les musulmans à travers toute la France. Donc il y a des relations avec les responsables associatifs et les membres des associations. Il y a aussi des relations avec les responsables des communautés culturelles, des mosquées, on devrait dire. Voilà, il y a quelques relations aujourd'hui toujours qui se maintiennent avec des responsables nationaux. Alors évidemment, ça bouge beaucoup, comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y a pas d'instance vraiment unifiée qui fonctionne encore. Le Conseil français du culte musulman n'arrivant pas à fonctionner à ce jour. Mais les relations avec les responsables des différentes fédérations, elles sont au nombre de 9, continuent. Il y a notamment la Fédération de la Grande Mosquée de Paris avec le recteur Shamseddin Hafez. Il y a l'Union des Mosquées de France avec Mohamed Moussaoui, qui entretient encore des relations avec nous. Voilà, nous avons quand même quelques relations avec ces fédérations qui continuent et nous les rencontrons dans des plateformes, dans des moments de concertation qui sont soit les sessions que nous organisons au niveau de l'Église de France, soit des plateformes de concertation qui sont parfois à l'initiative des pouvoirs publics aussi. Et puis, il y a des relations avec un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de personnalités musulmanes qu'on ne peut pas toujours rattacher à une fédération particulière ou à une identité précise. Je pense par exemple à Raleb Bencher de la Fondation de l'Islam de France, mais il y en a d'autres comme Homero Maranju Peria, en tous les cas des personnalités qui sont du monde associatif mais aussi institutionnel, puisqu'Homero Maranju est aumônier dans l'armée française. Et puis, il y a des relations avec des universitaires aussi, comme Awes Zeniger, qui est sociologue. Et donc, on essaye de cultiver au SNRM une sorte de connaissance un peu large de la réalité musulmane, voilà, à la fois celle qui produit de la pensée, et puis celle qui agit sur le terrain souvent aussi en bonne intelligence avec des chrétiens.
Jean-François Bourg, le mois dernier, le pape François s'est rendu à Bahreïn, un pays majoritairement musulman. À cette occasion, il a retrouvé le grand imam d'Al-Azhar, avec lequel il avait signé auparavant un document fondateur sur la fraternité humaine. Ces messages ont valeur de symbole et d'exemple dans un monde tenté par le repli sur soi et le rejet de l'autre.
Oui, c'est plus que symbolique, hein, parce que depuis une vingtaine d'années, même si la presse ne diffuse pas suffisamment ce genre de nouvelles, il y a de plus en plus d'événements interreligieux de niveau international. Probablement parce qu'un certain nombre de leaders des grandes religions du monde ont pris conscience que, justement, elles doivent participer à la réforme de la gestion planétaire, on devrait dire, hein. Elles ont pris conscience de cela. Donc, la concertation de ces leaders religieux a pris de la vitesse depuis quelques années. Ce sont aussi des leaders religieux qui ont pris conscience du grand danger de la manipulation possible des religions par des pouvoirs politiques. Et donc, le dialogue qu'elles mènent ensemble est aussi probablement, ça c'est un spécialiste de géopolitique du fait religieux qui le dit, pas moi, c'est François Mabille qui le dit, les leaders des grandes religions mondiales aujourd'hui essayent probablement à travers leurs relations de désamorcer toute velléité de manipulation politique du fait religieux. Alors y arriveront-elles? Ça on ne sait pas au jour d'aujourd'hui et on sait d'ailleurs que dans certains cas ça ne marche pas. Mais la concertation entre le pape François, par exemple, et le grand imam d'Al-Azhar est également intéressante parce que depuis la signature de la déclaration sur la fraternité universelle à Abu Dhabi par ces deux hommes en 2017, il y a pour eux un projet qui est d'approfondir des sujets ensemble. Et à Bahreïn, il était notamment question d'approfondir un point qui avait déjà été mis à l'ordre du jour en 2017. Ce point concernait le rapport Orient-Occident. Et donc en 2017, ils avaient prévu déjà de travailler cette affaire-là. Et puis ça a pu se faire à Bahreïn tout récemment. Et ce que je remarque, c'est que les déclarations concernant le rapport entre l'Orient et l'Occident montrent un certain déplacement du côté notamment des leaders musulmans. Un déplacement du regard sur l'Occident. Il faudrait regarder, vous pouvez regarder d'ailleurs notre site pour y avoir accès, le discours du grand imam Ahmed Attayeb notamment, qui invite les musulmans du monde entier à regarder l'Occident, non pas avec des yeux naïfs, puisqu'il y a quand même beaucoup de critiques qui sont adressées à l'Occident, mais avec un regard néanmoins nouveau et plus bienveillant. Et je crois que c'était une chose très importante à Bahreïn parce que le mépris qui peut régner entre l'Occident et l'Orient pour différentes raisons nourrit une certaine violence dans certains cas. On sait que le terrorisme islamiste, par exemple, s'est nourri tout au long des années passées d'un anti-occidentalisme féroce. La dénonciation d'un Occident corrompu, particulièrement perdu et dépravé. Or, Ahmed Attayeb, et il n'est pas le seul, puisque Mohamed El-Aïssa, qui est le chef de la Ligue islamique mondiale, va un peu dans le même sens actuellement. Il a fait un discours à Rome, à l'invitation de Sant'Egidio, il y a quelques semaines, qui va aussi dans ce sens de regarder l'Occident avec un regard plus bienveillant. Alors moi, j'espère que ces leaders, justement, nous orientent aujourd'hui pour que le regard que nous posons les uns sur les autres soit un peu plus ouvert et que nous prenions conscience de nos complémentarités, quoi.
Alors parlons de cette fête de Noël, Jean-François Bourg, Noël qui est un moment de partage pour les chrétiens, mais aussi finalement pour tous les Français d'autres religions. Que signifie Noël pour vous?
Mais Noël, c'est une fête de l'espérance. C'est avant tout pour nous le rappel, en tous les cas pour tous les chrétiens déjà, que Dieu accomplit sa promesse et que l'humanité qui a l'expérience souvent de la souffrance, qui chemine dans la nuit, beaucoup de textes bibliques et beaucoup de textes liturgiques le rappellent, eh bien, que l'humanité qui chemine dans la nuit ne doit pas perdre courage parce que, justement, Dieu vient, Dieu se manifeste, et Dieu, d'une certaine façon, on pourrait peut-être le dire ainsi, réensemence notre vieille terre par un germe divin que les chrétiens vénèrent comme étant le Fils de Dieu lui-même. Et ce qui m'importe surtout ici, c'est de rappeler ça, que Noël est une fête de l'espérance. Et dans les circonstances que nous vivons, qui sont tout de même assez difficiles, qui peuvent être sombres même, avec la proximité de la guerre sur le territoire européen, mais aussi des perspectives très complexes pour la planète entière, une crise énergétique, une crise climatique, une crise de l'environnement et bien sûr des tensions diplomatiques assez inquiétantes un peu partout. Bien, l'humanité est invitée à relever la tête. Et je crois qu'en France, bien, quelle que soit notre religion, aujourd'hui, bien, peut-être que cette lumière de Noël pourrait nous inspirer tous. On ne demande à personne d'adhérer au dogme chrétien, en tous les cas, mais j'espère que les chrétiens en France sauront manifester cette espérance de Noël et cette confiance que Dieu n'abandonne pas l'humanité.
Dernière question, quel message souhaitez-vous adresser aux musulmans à l'occasion de cette fête de Noël ?
Bien, je leur souhaite de pouvoir trouver la paix. Je leur souhaite de pouvoir trouver cette paix qu'ils chérissent profondément. On le sait bien, cette salutation « Salam alaikum » qui est pratiquée beaucoup par les musulmans du monde entier, rappelle que le premier souhait, le plus précieux, le grand trésor que l'on désire pour les autres, c'est la paix. Alors je leur souhaite cette paix et je leur souhaite aussi de trouver partout où ils vivent eh bien, cette joie de Noël qui j'espère, leur apparaîtra comme une joie spirituelle et pas simplement une opération commerciale.
Merci, frère Jean-François Bourg. Je rappelle que vous êtes dominicain, directeur du Service national pour les relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Je vous souhaite un joyeux Noël.
Merci, monsieur Barrière. Joyeux Noël.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.